C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
L'Outaouais, c'est une région qui a souvent estimé avoir été négligée par les gouvernements. Ne serait-ce que, disons, par le lien routier. Pendant des années, il n'y avait pas d'autoroute directe entre Montréal et l'Outaouais. C'était une des seules régions qui déplorait ça. D'ailleurs, on a construit l'autoroute 50, mais c'est un peu le symbole, disons, du peu de poids politique de l'Outaouais. Pourquoi? C'est une autoroute un peu bric-à-brac, qui est souvent une route provinciale et qui est surnommée l'autoroute de la mort. Ça, c'est un exemple. Après ça, les soins médicaux, les ressources pour avoir des médecins, pour avoir toutes sortes de matériel médical, ça fait des années que c'est dénoncé. En 2016, il y a un coroner qui disait que l'urgence de l'hôpital de Gatineau était une des pires du monde occidental. Là, il y a eu une sortie de médecins de la région de l'Outaouais qui implore Christian Dubé d'agir. Avant de passer à mon prochain invité, on va écouter Crystal Dionne. Elle était en entrevue avec nos collègues de l'Outaouais. Elle est la chef des urgences de l'hôpital de Hull. Vous allez entendre cette entrevue, un extrait de l'entrevue.
C'est très grave. Notre situation en ce moment, ce qui nous inquiète le plus, c'est la possibilité d'un bris en imagerie médicale.
C'est possible d'opérer un centre de trauma sans imagerie médicale en 2024?
Impossible. C'est impossible, c'est même dangereux. Puis je sais que peut-être que ça sonne alarmiste, mais c'est la vérité. Puis je suis vraiment inquiète pour la sécurité et la santé de la population de l'Outaouais.
Donc, c'était Crystal Dionne, chef des urgences de l'hôpital de Hull, en entrevue avec Frédéric Bisson sur notre antenne de l'Outaouais. Docteur Peter Bonneville est urgentologue et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIS de l'Outaouais. Docteur Bonneville, bonjour.
Bonjour à vous et merci de m'avoir à votre émission.
Plaisir. Vous avez fait une sortie avec d'autres collègues. Qu'est-ce que vous demandez au ministre Dubé?
Ben écoutez, la problématique de longue date pour l'Outaouais, c'est qu'on a des problèmes de main-d'œuvre du fait de notre proximité avec la région de l'Ontario. Et ce qu'on demande au ministre Dubé, c'est rien de moins que d'avoir de la parité salariale avec les personnes qui travaillent dans les soins de santé entre le Québec et l'Ontario, afin qu'on puisse en Outaouais, travailler et faire du travail qui est un travail de qualité.
Donnez-nous un exemple de disparité salariale si on compare Gatineau, l'Outaouais avec Ottawa et l'Est-Ontarien.
Donc, ce qui nous amène de façon pointue dans les médias, c'est le fait qu'on a trois technologues de l'hôpital de Hull qui vont quitter bientôt. Ces trois technologues-là partent pour aller travailler à l'hôpital Montfort et on va leur donner 30 000 $ de plus par année pour pouvoir travailler là-bas et en passant des bien meilleures conditions que du côté du Québec.
OK, ça c'est un exemple. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que là, on parle de trois personnes, mais on parle vraiment d'un exode qui est décrit là, comme étant important.
Mais je vais vous donner un autre exemple. On a des technologues qui sont partis travailler pour la fonction publique à Ottawa. Fait que non seulement on perd de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les hôpitaux, mais on perd aussi de la main-d'œuvre pour aller travailler à la fonction publique. Je peux vous assurer qu'au niveau de la rémunération de tout technicien, technicienne de laboratoire, infirmière, au niveau de la disparité du salaire, c'est dans les mêmes eaux.
Il est aussi question de matériel qui est défectueux là, dans plusieurs points de service des hôpitaux, notamment là, en Outaouais. Donnez-nous quelques exemples.
Mais moi, je vous dirais qu'à ce stade ici, là, ce n'est absolument pas la raison pourquoi nous, on demande au ministère là, de faire quelque chose. Ça, des appareils qui sont défectueux, je pense que c'est une réalité pour toute région. Notre réalité à nous, c'est vraiment le problème de notre de proximité avec l'Ontario et du fait qu'on perd. C'est une hémorragie de main-d'œuvre vers l'Ontario.
Là, ce que vous demandez, c'est que en raison de la proximité de l'Ontario, il y ait comme un traitement spécial pour les travailleurs de la santé de l'Outaouais.
Non. Je pense que le message est mal compris ici. On ne veut pas un traitement spécial pour les travailleurs de santé. Ce qu'on veut, c'est que la population de l'Outaouais puisse avoir les soins qu'elle mérite, qu'elle ait la même qualité de soins que partout ailleurs dans la province, qu'elle n'a pas en ce moment, dû au fait qu'on n'a pas assez de personnel pour pouvoir les traiter. Et là, à court terme, on va vraiment mettre la vie des gens en danger avec le départ de ces trois technologues-là. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. Dans tous les autres services, on a des problèmes. En ce moment, on est en train de travailler des plans de contingence pour pouvoir s'assurer de garder la salle d'opération de Gatineau ouverte cet été. Là, on parle d'un endroit où, habituellement, on a 7 salles d'opération. Et là, on a des plans de contingence pour juste essayer de sauver les meubles et faire en sorte là, qu'on va avoir juste assez d'infirmières pour pouvoir faire des césariennes d'urgence pendant l'été. Et là, ça veut dire qu'on ne pourra plus faire les chirurgies pour les cancers. On ne pourra pas faire aucune chirurgie élective cet été. Ça, c'est scandaleux. C'est inacceptable. Il n'y a aucune autre région au Québec qui accepterait ça.
Ben, écoutez, ce que vous me dites là, ça passe par un traitement spécial. Ça passe par regarder les salaires de métiers équivalents en Ontario, puis donner ce traitement spécial aux gens qui travaillent en Outaouais. Qu'on appelle ça comme on veut, ça demeure un traitement spécial. Puis je vous dis pas que c'est pas justifié, là.
Mais moi, je vais vous citer que il y a à peu près un mois, l'Observatoire de développement de l'Outaouais a publié un document. Et ce document-là indique que malgré un rattrapage, l'Outaouais est en déficit de 180 millions de dollars par année pour avoir le même montant par capita pour la santé des gens en Outaouais. Ça, là, si vous faites le calcul, depuis que la CAQ est au pouvoir, ça veut dire que c'est 1 milliard de dollars que la CAQ a sauvé sur le dos de la santé du monde en Outaouais. Alors, appelez ça un traitement spécial, si vous voulez. Mais nous, on a un organisme indépendant qui dit, hey, le gouvernement du Québec, là, vous ne mettez pas autant d'argent en Outaouais qu'ailleurs dans la province.
Docteur Bonneville, quand je parle de traitement spécial, c'est quand on prend les travailleurs d'une région puis qu'on leur donne le salaire équivalent à ceux d'une province, c'est un traitement spécial.
Ben écoutez, moi je vais pas m'enfarger dans des mots. Moi, le point de ma sortie, c'est que j'implore le ministre Dubé de s'assurer qu'en Outaouais, on puisse donner des soins de la même qualité que partout ailleurs dans la province. Il trouvera le moyen qu'il trouvera. Moi, je fais ma job, lui, il fait la sienne, mais la sienne, je pense vraiment, c'est de s'assurer que tous les Québécois aient le même réseau de santé et qu'il n'y ait pas une région où on met la vie des gens en danger.
Pourquoi vous pensez que l'Outaouais est maltraité comme ça? C'est pas la première fois là, que c'est soulevé. C'est comme si c'était une région qui était peut-être négligée par le pouvoir central et je pense que c'est le cas, qu'importe la couleur du parti politique à Québec.
Ben, moi, je vais vous dire qu'il y a presque 5 ans maintenant, en Assemblée nationale, on a voté une motion unanimement de dire que l'Outaouais avait un statut particulier. Ça, c'est venu avec ADAP 0$, mais je vous ferai mention qu'il y a quelques semaines de cela, on avait annoncé 245 millions pour le réseau routier en Outaouais et entre autres de dire qu'on va avoir un réseau routier qui va être beaucoup plus sécuritaire. Et moi, j'ai applaudi cette annonce-là parce que ça va être pratique d'avoir un réseau routier plus sécuritaire parce qu'on n'aura plus de centre de traumatologie qui va pouvoir s'occuper des accidents de la route. Alors, moins on a d'accidents de route, on va avoir moins de patients qui vont décéder. C'est un peu ironique, l'histoire-là.
Est-ce que vous avez eu une réponse du ministre Dubé, Dr. Bonneville?
Ben, moi, je n'ai eu aucune réponse personnellement. Au mieux, on a des personnes du ministère qui nous parlent. Mais je veux dire, le ministère de la Santé, là, moi, je compare ça à un oignon. Hein. Fait que Monsieur Dubé, il est au centre de l'oignon, là, puis là, vous vous attaquez la première pleure. Puis il y a du monde là qui sont là pour vous dire non, vous braillez trop en Outaouais, vous sonnez l'alarme pour rien. Là, finalement, ah ouais, peut-être. Là, t'arrives à la deuxième pleure et la troisième pleure. Là, arriver à la dernière pleure, là, c'est difficile. On sait que M. Dubé a été interpellé. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir le débat qui a eu lieu cet après-midi, où est-ce que M. Fortin l'a interpellé. Et M. Dubé, ben, je suis content. Il a quand même avoué que oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes en Outaouais. Et puis, vous savez, c'est vrai que c'est dur, la compétition avec Ontario. Moi et Mme Lebel, on travaille là-dessus. Mais ça serait peut-être le fun qu'il travaille un petit peu plus fort pour nous.
Merci d'avoir été avec nous, Dr. Bonneville. Bonne soirée.
Merci à vous.
Peter Bonneville, qui est urgentologue et président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du CIS de l'Outaouais.
Patrick Lagacé en accéléré.
Au Royaume-Uni, il y a une partie de la population, une partie de la classe politique qui en a assez des sans-papiers, de ces migrants qui tentent d'entrer et qui réussissent à entrer sur le territoire national de façon irrégulière. Il y a beaucoup de gens qui essaient de traverser la Manche, par exemple, avec des bateaux de fortune pour toucher au sol britannique en espérant avoir l'asile politique. Depuis quelques heures, il y a un projet de loi qui est entré en vigueur, qui est maintenant qui n'attend que l'approbation royale, un peu comme ici au Canada. Et ce que ça va permettre, c'est de prendre ces sans-papiers et de les envoyer au Rwanda. Pourquoi le Rwanda? On en parle avec Marie Billon, journaliste correspondante pour RTL au Royaume-Uni. Marie, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, expliquez les détails de ce projet de loi-là là, qui frappe l'imaginaire des gens tentent de gagner le Royaume-Uni et vont se faire envoyer au Rwanda.
Alors, bah, écoutez, maintenant, de toute façon, c'est une loi. Elle a bien été votée de manière finale hier. Et donc, ça veut dire que toutes les personnes qui arrivent au Royaume-Uni de manière illégale peuvent être envoyées au Rwanda pour y déposer leur demande d'asile. Alors ça ne veut pas dire toutes les personnes qui arrivent illégalement seront envoyées au Rwanda. Une partie va être envoyée au Rwanda. Pour l'instant, le gouvernement a mis de côté 350 personnes, peut-être pour le premier vol, mais on n'aura pas une majorité de demandeurs d'asile qui seront envoyés au Rwanda. Mais pour ceux qui iront au Rwanda, c'est là qu'ils déposeront leur demande d'asile, c'est là que leur demande d'asile sera étudiée et leur sera accordée ou pas, et ils resteront au Rwanda. Aucun ne reviendra au Royaume-Uni, même bien sûr ceux dont la demande sera rejetée. Eux pourront demander un autre titre de séjour au Rwanda ou bien faire une demande d'asile dans un autre pays.
Mais OK, mais expliquez aux gens qui nous écoutent, Marie Billon, quel est le lien entre le Royaume-Uni et le Rwanda? Pourquoi cette entente entre les Britanniques et le Rwanda en particulier?
Alors la question est... Enfin, la réponse est un petit peu bête dans un sens, pas la question du tout, mais la réponse, c'est juste que c'est le Rwanda le seul pays qui a accepté les avances du Royaume-Uni là-dessus. Le journal The Times a fait un article la semaine dernière il avait eu accès à des documents fuités. Une bonne dizaine de pays a été contactée par le Royaume-Uni. Certains ont carrément dit non. C'est le cas notamment du Maroc. Certains sont encore en discussion avec le Royaume-Uni. C'est le cas, je crois, de la Côte d'Ivoire. Mais le Rwanda est le seul pays qui a accepté les avances du Royaume-Uni. Alors, il fallait que ces pays répondent à certains critères. Donc, tous les pays du monde n'ont pas été approchés. Mais le Rwanda fait partie du Commonwealth, même si ça n'est pas un ancien pays de l'Empire. Donc, il y a un lien, de toute façon, entre le Rwanda et Londres. Et le Rwanda est un pays qui veut se développer. Et c'est un deal qui est très lucratif, un accord qui est très lucratif pour le Rwanda, puisqu'il y a déjà plus de 300 millions de livres qui ont été versés au Rwanda. Il devrait y en avoir encore plusieurs millions qui vont être versés au Rwanda. Et s'il y a plus de 300 réfugiés qui sont envoyés au Rwanda, eh bien le Royaume-Uni devra payer une somme de 120 millions, juste parce que la barre des 300, seulement 300, est dépassée. Donc c'est un accord qui est très lucratif pour le Rwanda, qui veut s'en servir comme fonds de développement, en gros.
Est-ce que toute personne qui débarque de façon irrégulière au Royaume-Uni est envoyée au Rwanda ou il y en a, sous certaines conditions, qui peuvent rester au Royaume-Uni?
Alors, comme je le disais, donc toutes les personnes qui arrivent illégalement au Royaume-Uni ne seront pas envoyées au Rwanda. C'est uniquement une poignée qui sera envoyée au Rwanda. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de maximum ou de minimum, c'est le plus possible. Mais il faut déjà, on sait que ce sera pas des enfants, pas des mineurs. A priori, il n'y aura pas de famille non plus. Pas sûr qu'il y ait des femmes aussi. Donc, on s'attend surtout à ce que ce soit des hommes seuls, jeunes et donc célibataires qui soient envoyés là-bas. Donc déjà, même si c'est effectivement la majorité des personnes qui arrivent ici clandestinement, ça ne veut pas dire tout le monde. Et puis là, dans les 350 que le gouvernement a mis de côté, en gros, pour les premiers vols, ce sont les personnes dont on sait qu'elles vont certainement déposer un recours pour ne pas être envoyées au Rwanda, mais le gouvernement pense que leur recours sera refusé. Donc, pour s'éviter des humiliations et des avions bloqués, comme on a déjà vu, la première fois que cette loi avait été votée, le Royaume-Uni fait bien attention à choisir des candidats qui devraient ne pas réussir à remettre en cause leur expulsion vers le Rwanda. Et la loi, telle qu'elle a été écrite et votée hier, elle est très restrictive dans les possibilités de recours. C'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'une personne puisse déposer un recours et qu'il soit potentiellement couronné de succès, il faut que ce soit la personne en tant qu'individu, elle personnellement, qui pourrait souffrir d'être envoyée au Rwanda. Ça ne peut pas être par principe, ça doit être, chaque personne doit prouver que pour son cas personnel, c'est un problème. Et ce serait quelque chose d'assez compliqué, déjà de très mangeur de temps pour les cours de justice. Et puis, ce serait aussi quelque chose de très compliqué pour chaque personne à faire valoir devant des cours de justice. Il faut des avocats, il faut des moyens, etc. Et surtout, une personne qui reçoit son avis d'expulsion a 7 jours pour faire appel. Ça n'est pas beaucoup pour préparer justement un dossier aussi précis.
Racontez-nous à quel point c'est une question politiquement chargée que celle des migrants, les sans-papiers qui débarquent au Royaume-Uni.
C'est vraiment le cheval de bataille de Rishi Sunak en ce moment, qui est très très bas dans les sondages. Donc Rishi Sunak, le premier ministre du Parti conservateur, très bas dans les sondages, assez contesté même au sein de son propre parti. Et avec ce texte de loi, il veut convaincre la droite de la droite du parti qu'il a encore de l'autorité, qu'il a encore des idées, même si ce projet de loi n'était pas le sien. Il en a hérité en même temps qu'il a hérité de Downing Street, mais il en a clairement fait son cheval de bataille. Donc, si aucun vol ne décolle, il aura 2 solutions. Soit effectivement admettre l'échec, mais on ne s'attend pas à ça de la part d'un politique, soit de dire, eh ben, vous voyez, on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait pour répondre à cette préoccupation des Britanniques, comme ils disent, et diminuer les traversées, puisque c'est le but ultime, et renvoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Mais selon qui va bloquer, les cours de justice, les associations, ou bien d'autres politiques par exemple, eh bien on pourra trouver une raison pour laquelle ce projet n'a pas pu avoir lieu. Ça ne sera pas la faute de Rishi Sunak en ce moment. Donc ça, c'est une stratégie politique pour finalement avoir l'air de dire, alors ça y est, on l'a passé cette loi, mais si ça ne marche pas, c'est pas notre faute. Et la gauche, qui a finalement, à force, laissé passer cette loi, l'a votée hier, elle s'attend à ce que le gouvernement se prenne les pieds dans son propre tapis, n'arrive pas à envoyer des migrants au Rwanda. Et si, comme l'indiquent les sondages, la gauche arrive au pouvoir d'ici quelques mois, les élections doivent avoir lieu avant janvier prochain, eh bien la gauche a déjà dit que c'est une loi qu'ils vont annuler et qu'eux ne feront aucun envoi d'expulsion de migrants illégaux vers le Rwanda.
Vraiment, vraiment intéressant. C'est très intriguant, cette mesure. Merci, Marie, d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Au revoir. C'était Marie Billon. Elle est correspondante à Londres pour RTL. Et c'est une mesure là qui est, je dois le dire, dénoncée un peu partout. Amnesty International, par exemple, des églises, etc. Évidemment, des groupes de défense des migrants trouvent que c'est cruel. Mais bon, pour l'instant, ça passe le test des tribunaux. Il y a une première version du projet de loi là qui avait été torpillée en cours. Mais là, il semble que ça fonctionne. Donc, intriguant, on prend des migrants et on va en envoyer comme ça au Rwanda.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va se faire 2 blocs de politique québécoise. Dans quelques minutes, on va parler avec notre ami Louis Lacroix à Québec. Ça brasse notamment pour Éric Lefebvre, le député qui était avec la CAQ, qui était le whip responsable de la discipline pour la CAQ. C'est un poste important. Et il est sorti du caucus, siège maintenant comme indépendant, parce qu'il va se présenter avec Pierre Poilievre au fédéral. Et tout ça lui vaut beaucoup, beaucoup de tomates. Donc, on va parler de ça avec Louis dans quelques minutes. Philippe J. Fournier est là. Il est le rédacteur en chef de Québec 125 et aussi chroniqueur pour l'actualité. 2 sondages qui sont tombés aujourd'hui sur les intentions de vote au Québec. Salut, Philippe.
Bonjour, Patrick.
Donc, pendant qu'on parlait, pendant la pause, tu m'as dit, il y a un sondage de Léger qui va sortir. Il est sorti.
Il est sorti.
Je vais te demander d'abord de décortiquer le sondage Palace qui montre que les libéraux, d'une façon surprenante, seraient en hausse.
33 % pour le Parti québécois et là, soudainement, on voit 23 % pour le Parti libéral. On fait un saut. On n'a pas vu ça depuis des lunes. J'ai regardé la liste, Patrick, et c'était le meilleur sondage pour les libéraux au Québec depuis novembre 2020. Donc, ça fait longtemps. Sauf que en regardant les tableaux, j'ai tout de suite vu il y avait un piège, une illusion optique là-dedans. C'est que les chiffres de Palace chez les non-francophones indiquent que les libéraux ont grimpé de façon radicale dans les derniers 2 mois. Et donc, l'hypothèse que j'avais par rapport à ça, c'est bon, le discours référendaire là, depuis des semaines, M. Plamondon qui dit que c'est une certitude avant la fin de la décennie qu'il va avoir un troisième référendum. Je dis, bon, les fédéralistes, les anglophones, les allophones
se rallient,
n'est-ce pas? Mais là, on voit que Léger ne voit pas ce mouvement-là.
Parce que je vais préciser, là, OK? Chez Léger, attends. Chez Léger, Parti québécois, on est à 34 %. Ça, oui. C'est dans les normes des sondages récents, là. La CAQ serait à 24 au deuxième rang, exact. 24 %. Le PLQ, toujours autour de 15 %, selon...
C'est
ça,
à son plancher.
Ça, c'est synchro avec tous les sondages qu'on voit depuis quelque temps.
Exact.
Mais ça, c'est en opposition, disons, avec le sondage Palace dont tu parles.
C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde les chiffres chez les francophones, ils sont presque identiques. C'est vraiment, encore une fois, l'échantillon de non-francophones. Alors, il va falloir vérifier. Je veux dire, évidemment, la firme Léger est très bien établie. Je ne doute pas des chiffres de Léger. Peut-être qu'il y a eu...
Des fois, il y a des échantillonnages différents.
Absolument. Oui, oui. Mais les chiffres des francophones sont quasiment identiques. Le Parti libéral, chez Palas, sont à 10 % et chez Léger, sont à 6 %. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveaux sièges au PLQ, même si les chiffres, à première vue, semblent bons chez Palas.
Chez les péquistes, est-ce qu'on peut déboucher le champagne?
Bien, c'est sûr qu'il est tôt. Les élections sont dans 2 ans et quelques mois. Mais on peut dire que la montée que nous avons vue d'abord à l'automne et ensuite qu'on a vu se poursuivre en janvier, février, bien, ça a continué. Et donc, François Legault et la CAQ, malgré les promesses, malgré le budget, malgré d'avoir réglé la situation avec les syndicats du secteur public, ça n'a pas amélioré les choses. Donc, selon Palace, à 20 % pour la CAQ, selon Léger, à 24, on imagine que c'est quelque part entre les deux. Ce n'est pas un très bon score pour la CAQ. Et le PQ serait majoritaire avec de tels chiffres.
Je suis toujours étonné de voir que dans la région de Québec, le Parti québécois a de très bons scores. Ça a été la disette dans la région de la Capitale-Nationale. Et là, ils sont premiers à 38 % selon le sondage Palace. Comment on explique ça?
Ça fait environ un an qu'on a vu les chiffres chavirer à Québec. C'était en avril dernier, en fait, là, après la saga du troisième lien. Et là, je dis la première saga du troisième lien, bien sûr, qu'on a vu la CAQ prendre un coup. Et la CAQ ne s'est jamais rétablie à Québec depuis. Et je me rappelle du sondage juste après l'annonce des Kings, qui était en novembre. La CAQ était à moins de 20 % dans la région de Québec. Et même les gens à la CAQ m'ont dit « on a perdu 25 points à Québec ». Et ces électeurs-là se cherchent une avenue, un nouveau parti. Et pour l'instant, c'est vraiment le Parti québécois qui en profite. Et on voit, Éric Duhaime n'est pas loin à Québec. Éric Duhaime, plusieurs personnes avaient dit, après l'élection, il n'a pas gagné de siège. Ah, ça va s'effondrer, la pandémie achève. Et on voit qu'à Québec, ça se maintient pour le Parti conservateur du Québec.
Je parlais avec Philippe Quentin il y a quelques semaines. Puis on essayait de faire l'autopsie. Là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la CAQ devienne si impopulaire? Toi, tu mentionnes le troisième lien. Oui. Est-ce que l'augmentation de salaire de 30 % que les caquistes ont décrété, est-ce que ça les a plombés?
Ça n'a pas aidé, ça c'est certain, surtout dans une année où il y avait d'énormes négociations avec le secteur public. Donc, on se donne un 30 %, mais avec les professeurs, la première offre était 9 % sur 5 ans, ça bat même pas l'inflation. Et donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé, mais bien sûr, je fais attention avec le cause à effet. La CAQ a tellement gaffé souvent en 2023 que c'est difficile de lier une gaffe à une chute dans les sondages. Si on regarde la progression, si vous allez sur mon site pour voir le graphique, vous voyez tout au long de 2023, la CAQ descend, et ce n'est pas encore rétabli.
OK, si on avait des élections demain matin, en vertu de ce sondage Palace, puis on se comprend, Philippe, là, c'est un Polaroid, on est à 2 ans des élections, on fait de la politique fiction, mais ça donne une idée des performances des partis. Québec solidaire serait où?
Québec solidaire, dans les 2 sondages publiés aujourd'hui, perd 4 points par rapport au sondage précédent de chacune des firmes. Et dans le sondage Palace, on posait la question « Pour qui avez-vous voté en 2022? » Et on voit que 30 % de ceux qui avaient voté QS sont maintenant au Parti québécois. Et ça, ça fait mal. Et donc, considérant que le PLQ semble se maintenir à Montréal, que QS a perdu du terrain face au PQ, QS aurait de la misère à garder tous ses sièges présentement. Il n'y aurait pas vraiment de gain, sauf peut-être, bien sûr, en Abitibi, reste à voir.
Même à Montréal, le Québec solidaire aurait de la difficulté?
Ça serait difficile de voir faire des gains, par exemple. Est-ce qu'il pourrait garder Verdun avec l'Île des Sœurs, qu'ils ont gagné par 400 sièges, je crois que c'était, il y a 2 ans? Ça serait difficile. Les sièges qu'ils ont déjà devraient être sûrs, mais je parle de gains. Je ne vois pas pour l'instant de gros gains à Montréal.
OK, Parti conservateur du Québec. Tu le disais, Philippe Fournier, ils sont populaires dans la région de Québec. Ils sont encore vus comme une alternative, mais ils sont à l'échelle du Québec. Selon le récent sondage Palace, ils sont à 11 %. c'est un peu plus. Je pense que c'est à peu près la même affaire là, avec le léger.
Exact, c'est 10 % chez léger. Le Parti conservateur se rendrait en très bonne position pour gagner les deux sièges de la Beauce. Serait compétitif dans le reste de Chaudière-Appalaches. On regarde peut-être l'Aubigny-Frontenac. Et je regarderais des sièges dans la couronne extérieure de Québec, les Chauveaux. Ça reste à voir. Mais avec la CAQ qui perd 25 points à Québec, le Parti québécois qui a repris une partie de ça, le Parti conservateur pourrait faire des gains à Québec.
OK. Monsieur Legault, est-ce qu'il peut regarder le passé puis voir des gouvernements qui étaient hyper impopulaires, un peu comme le sien, et qui ont quand même fini par gagner l'élection suivante?
Le seul précédent que nous avons au Québec de tout ça, dans le Québec moderne, c'est Jean Charest en 2007. Et peut-être que tu te souviens, Jean Charest, oui. 2007, la montée de l'ADQ, il n'avait pas des bons sondages. On voyait des 20-22 % et finalement, il a terminé, je crois que c'était 31 ou 32 % lors de l'élection en 2007. Il était minoritaire. Il a remonté la pente, mais est-ce que vous aimiez ou non Jean Charest, il était un très bon campaigner. Ce que M. Legault, je pense, n'a pas prouvé lors en 2018 ou en 2022. Les campagnes n'étaient pas aussi solides. Alors, il y a des précédents, mais ils sont minces.
Charest, dans le premier mandat, là, vers la fin du premier mandat, était aussi impopulaire que Legault maintenant?
Faudrait que je retourne les chiffres, là, tu me surprends
mais
un peu
mais
avec
on est
ça.
Dans les mêmes
mais
eaux.
Oui, absolument, on est dans les mêmes eaux. L'ADQ était en hausse. Yeah. L'ADQ allait fermer le gouvernement en 2007.
Oui, je me souviens. Ça a failli. Mais ce que je voulais savoir, c'est généralement, quand t'es bas comme ça, tu vas te faire battre aux élections.
Généralement, dans un deuxième mandat. Les libéraux de Justin Trudeau espèrent encore que ça remonte, mais là, ça va faire un an qu'ils tirent de l'arrière par 10, 12, 15, 20 points. Et avec l'élection l'année prochaine, il faudrait vraiment croire au miracle pour voir que les libéraux peuvent se l'emporter. Donc oui, en effet, quand on perd du terrain dans un deuxième mandat, souvent ça achève.
OK, je comprends les échantillonnages qui peuvent être différents, Philippe, là, mais on a deux sondages, le Palace et le sondage Léger qui vient d'être présenté. Là, on dit les détails dans le Journal de Montréal demain. C'est pas radicalement différent, mais il y a quand même des différences. T'sais, on dit dans le léger, M. Legault freine sa glissade. Dans le sondage Palace, ben M. Legault est troisième.
Exact.
Il n'y a pas comme un danger de perception pour l'industrie du sondage quand tu as des résultats. Je veux pas dire radicalement différent, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a quand même deux sondages qui sortent simultanément sur le même objet, la politique québécoise. Ça dit pas la même chose.
Je comprends ce sentiment-là je ne suis pas sondeur. Je veux dire, moi, je critique généralement les sondages. Je décortique et je critique les sondages. Alors, j'ai déjà critiqué sévèrement certaines firmes de sondage. Mais dans ce cas-ci, surtout quand je dis encore une fois, je regarde les électeurs francophones. Les deux sondages disent pas même la même chose. C'est juste que 70 % des non-francophones dans le Palace appuient les libéraux. Alors que là, bon, j'ai pas vu les détails de Léger, mais je peux supposer que c'est autour de 45. Et bon, un 35 points de différence ou un 25 points de différence dans une population qui est 22 % du Québec, ça fait ça 6-7 points de différence.
On va te laisser aller décortiquer les chiffres qui viennent de sortir du sondage de Léger. Philippe Gifournier de Québec 125, chroniqueur à l'actualité. Merci, c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup, Patrick.
Patrick Lagacé en accéléré.
Élever ses enfants en ville, bonne ou mauvaise idée? C'est le titre d'un texte de Brigitte Hébert-Carl dans la plateforme Molo, de la plateforme Urbania, pardon. Et Brigitte se pose la question à partir d'une anecdote. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis en train de nuire à mon enfant de 3 ans? Bonjour Brigitte.
Bonjour Patrick.
C'est un texte très, très intéressant. Raconte l'anecdote qui lance ce papier-là.
L'été dernier, je revenais d'une balade en métro avec ma fille, comme tu as dit, de 3 ans, à l'époque, 3 ans. On allait en métro juste pour aller en métro parce que à cet âge-là, c'est une activité en soi de se promener dans les transports en commun. On monte les escaliers roulants à la station Joliette, près de Schlager-Maisonneuve. On monte les escaliers, puis là, ma fille, elle trippe sur les escaliers roulants. Là, c'est son manège préféré. On arrive en haut, puis là, moi, je vois tout de suite qu'il y a un homme sur le banc qui est en face des escaliers et devant la porte. Donc, pas le choix de passer devant, qui était en train de se piquer comme ça devant nous. Puis là, j'ai un peu paniqué, puis ma fille a rien vu de ça à cause des escaliers roulants. Puis on est passé tout droit, mais là, tout de suite, je me suis dit, mon Dieu... si elle l'avait vu, elle m'aurait posé des questions. Comment j'aurais répondu à ces questions? Je me suis mise à me poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'élever ma fille à Montréal?
Puis quelle a été la réponse, puisque tu y penses depuis à peu près un an?
Ben là, écoute, je me suis mise à réfléchir beaucoup sur le sujet, comme j'ai écrit un article là-dessus, donc j'ai vraiment posé des questions à plein de monde. Oui, ma réponse va rester oui. J'aime la ville, j'aime Montréal. Donc, c'est sûr que ma fille va continuer à vivre ici. Elle n'a pas vraiment le choix. Il faut que ses parents soient heureux aussi pour qu'elle soit heureuse. Alors, c'est ça.
Mais tu t'expliques dans ton texte, Brigitte, que tu as grandi, toi, à Trois-Rivières. Et ça ressemblait, comme tu dis, là, ça ressemblait là, à une armoire IKEA bien rangée. Il n'y avait pas ces problèmes-là qu'on rencontre à Montréal. T'as-tu déjà été tenté de te dire, sais-tu quoi, chérie, on va prendre nos clics, nos claques, on va aller vivre à Laval, on va aller vivre à Longueuil ou ailleurs où il n'y a pas tous ces problèmes-là qui sont dans notre face comme à Montréal?
Oui, c'est sûr. Puis de plus en plus, je dirais, j'ai toujours été, j'avais très hâte de venir vivre à Montréal quand j'étais ado. J'adore la ville pour plein de raisons, plein d'avantages. Mais récemment, justement, à grandi, je me pose toutes sortes de questions. T'sais, j'aime encore assez la ville, mais oui, des fois, je suis de plus en plus capable de m'imaginer déménager. Ce qui n'est pas le cas de mon conjoint. Par contre, lui, c'est sûr que c'est Montréal ou rien. Mais oui, à Trois-Rivières, c'était calme, à mon avis.
Étais-tu à Trois-Rivières centrale ou t'étais en banlieue de Trois-Rivières?
À Trois-Rivières centrale.
OK. Puis là, t'expliques qu'à 9 ans, tu marchais seule à pied pour aller à l'école.
Oui.
Est-ce que ta fille, à 9 ans, va marcher seule pour aller à l'école?
Écoute, il reste quelques années pour que je me décide là sur ça. Mais
ça te fait peur?
Pour l'instant, la réponse serait non, effectivement.
Pourquoi ça te fait peur?
Mais premièrement, l'école primaire est juste à trois coins de rue, là, si on reste là. Puis c'est rien, là, mais on traverse la rue Sherbrooke. La rue Sherbrooke, moi-même, quand je la traverse, je suis un petit peu alerte, je regarde partout, puis je suis un peu stressée.
Fait que tu te dis, c'est pas vrai que ma fille à 9 ans, seule, va traverser la 138, parce que c'est comme
ça.
C'est aussi ça. Pourquoi? Parce que tu trouves que les automobilistes font pas attention?
Oui, entre autres, on en a des exemples tous les jours. Là. Il y a eu la petite Maria qui est décédée dans Ville-Marie. Ça peut être partout, c'est sûr, mais à Montréal, il y a beaucoup de voitures. T'sais. Puis la rue Sherbrooke, c'est une grosse rue. Même s'il y a des brigadiers pour les aider à traverser, je pense que je vais l'accompagner quand même un bon bout de temps.
Je recule la cassette. Là. Je reviens au métro Joliette l'année passée. Là. Bon, vous êtes dans l'escalier roulant, ta fille a trip parce qu'elle trouve que c'est comme un manège. Vous arrivez proche de la sortie de l'édicule du métro, et il y a ce gars-là en train de se piquer, en train de s'injecter de la drogue. C'est-tu bon ou mauvais pour une enfant de voir ça, d'être exposé à ça?
C'est une bonne question. Je la trouve un peu jeune pour se poser ces questions-là, mais ça va venir probablement beaucoup plus vite que moi quand j'étais à Trois-Rivières. Puis qu'elle se pose toutes ces questions-là qui viennent avec le fait de vivre en ville, je trouve que c'est bien, c'est une ouverture d'esprit qui va plus vite, là, à vitesse grand V. Puis effectivement, je pense qu'elle va sortir grandie de ça si on l'accompagne bien comme parent. C'est sûr qu'il faut savoir répondre à ces questions comme il faut.
Oui, mais comment on répond aux questions d'une enfant là, qui a 4 ans, qui va avoir 5 ans, sur ce phénomène-là qui est complexe? Puis comment tu trouves des mots d'enfant pour dire ça?
Bien là, j'ai parlé à Mélanie Milonneau, une psychoéducatrice en petite enfance, qui m'a justement suggéré de pas trop devancer les questions. C'est d'attendre que ça vienne de l'enfant, puis après de répondre dans ses mots le plus simple possible, clair et simple. Oui, il y a des enfants, des personnes qui n'ont pas la chance de vivre dans des maisons, on les appelle les itinérants. Après, elle va sûrement avoir d'autres questions, on essaie de répondre comme on peut, puis si on n'a pas la réponse, bien on le dit qu'on le sait pas.
Là où je trouvais, Brigitte, que ton texte était... Ton texte est intéressant, mais un aspect intéressant, c'est... Moi, j'ai toujours trouvé qu'habiter à Montréal, c'est du trouble. C'est un acte de foi. On est tous un par-dessus l'autre. On n'a pas de gazon. Un condo, un appartement, tu regardes ce que ça te coûte par mois. Une maison, tu déplaces le curseur 15 km, 30 km au nord, à l'est, à l'ouest, puis tu te dis, OK, voici ce que je pourrais avoir. Les bruits d'auto, l'homme, l'itinérance. T'sais, j'ai rien contre les itinérants. Mais il y a des quartiers où c'est vraiment pas le fun, ils dorment dans les escaliers. C'est pas le cas quand t'es en banlieue. Toi, Bromont, ça te tente pas?
C'est un peu loin, Bromont, mais je commence à avoir des amis à Saint-Hilaire ou peut-être juste le Vieux-Longueuil. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, mais aussi la ville a plusieurs avantages. Là.
Ta famille qui est en Mauricie, qu'est-ce qu'ils disent d'élever un enfant à Montréal?
Ah ben là, faudrait demander à ma mère.
Qu'est-ce qu'elle dit, ta mère?
Ben écoute, à chaque fois qu'ils viennent à Montréal, ma mère ou mon père, c'est sûr qu'ils auront un commentaire sur la ville, c'est donc bien...
Qu'est-ce qu'ils disent?
Ben, le trafic, ils n'aiment pas le trafic, mais c'est vrai, ouais. Ils ont raison. C'est compliqué, le stationnement, des affaires, des clichés comme ça, là, ouais. Qui sont vrais, mais qu'on s'habitue. Quand on est en ville, on s'habitue à tout ça. Là. Ça devient la norme pour nous. Donc, ça va être la norme aussi pour ma fille quand elle va grandir.
Aurais-tu été différente si tu avais grandi à Montréal plutôt qu'à Trois-Rivières?
Bien, peut-être. Ça, je le saurais jamais. Mais j'ai une amie qui, elle, a fait le contraire. A grandi à Montréal, puis vient de déménager en banlieue. Puis elle a dit que ça a pris 30 secondes, puis qu'elle avait bu le Kool-Aid, puis qu'elle était bien heureuse, puis qu'elle sait pas comment elle l'a fait. Mais elle était bien heureuse, là. Elle l'a pas fucké de vivre à Montréal.
Moi, j'ai grandi à Laval, là. Je suis un enfant de la banlieue. J'ai été super heureux. Mon gars, il a 18 ans, il a l'air d'être heureux. Je dis qu'il a l'air parce que tu le sais, les ados,
oui,
là,
oui.
Ça va venir, là, Geneviève, là. Brigitte, c'est difficile d'avoir une conversation avec eux. Mais moi, je suis toujours fasciné de penser qu'il y a des gens qui croient qu'on peut pas élever des enfants à Montréal pour des questions de qualité de vie.
C'est vrai. C'est vrai que c'est une croyance, puis c'est vrai que comme parent, je me suis moi-même posé la question, mais tout ce que j'ai aimé de la ville, ma fille va l'apprécier parce que je vais lui montrer. Chacun son choix, hein. C'est facile, là, mais c'est ça quand même. Il y a du bon en ville, il y a du bon en banlieue, il y a du bon en campagne, il y a du bon partout, puis on essaie de prendre le meilleur, puis le reste, ben on fait avec, puis on se débrouille comme on peut pour essayer de l'expliquer à nos enfants.
Intéressant. J'invite les gens à lire ton texte, Brigitte. C'est sur la plateforme Molo d'Urbania. Question complexe. Je pense que c'est polarisant. As-tu eu beaucoup de réponses là-dessus?
Quelques personnes qui se sentaient concernées. Là, des personnes, justement, qui n'ont pas grandi à Montréal, qui ont fait « Ah oui, moi aussi, je pense la même chose. » Ouais.
Merci d'être venue nous voir. C'était Brigitte Hébert-Carl.
Merci.
Brigitte Hébert-Carl, il y a quelques minutes, qui nous a parlé de ses doutes qu'elle a exprimés dans un texte publié sur Urbania. Élever un enfant à Montréal, c'est-tu une bonne ou une mauvaise chose? Les deux personnes devant moi l'ont fait, oui, ont réussi cet exploit-là.
Moi, j'ai pas fini.
Catherine et Meeker.
Oui.
Catherine?
Moi, oui. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait grandir ma fille à Montréal. Je suis quand même une soupape, là. J'ai un chum en banlieue.
Oui.
Fait que ça, j'ai le meilleur des deux.
T'as un chalet à Longueuil.
J'ai un chalet à Longueuil. Mais non, honnêtement, moi, j'ai bien aimé Montréal.
Ceci étant dit, ça, c'était à une autre époque.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que ça...
Moins certaine. Ah, parce tu sais, moi, ça fait souvent, j'entends souvent des coups de feu dans Rosemont, là.
Tu les entends?
Non, je les entends pas. J'entends souvent parler.
Ouais.
Tu sais, dans les nouvelles.
C'est moins le fun.
Ça m'inquiète beaucoup.
Meeker?
Toi?
Ah, mon Dieu, une expression de la droite qui dit des snowflakes, des flocons de neige, c'est-à-dire vous êtes sensible à pas grand-chose. Moi, j'ai grandi à Montréal, j'ai une fille de 6 ans et comme Brigitte, j'habite pas loin du métro Joliette. Et oui, sans hésiter, habiter à Montréal. Et la raison pour moi, elle est très simple, c'est que je veux pas que... J'ai vu beaucoup de jeunes, quand j'étais au cégep ou à l'université, qui arrivaient à Montréal, qui étaient impressionnés par la ville, qui avaient peur de la ville, qui étaient craintifs et qui ne vivaient pas la pleine expérience de partir de chez ses parents et de vivre la ville, et je veux pas que mon enfant vieillisse et grandisse comme ça. Et en plus, ça donne une certaine agilité à l'extérieur quand tu vas dans d'autres grandes villes. New York, Paris, Londres, il y a rien là pour toi.
T'as raison, ça c'est vrai.
Il y a rien là pour toi, ceci étant dit, le visage de la ville a changé.
Ouais.
Plus, tu sais, tantôt, quand on a reçu Brigitte Hébert-Carl, dans son texte, on ne l'a pas abordé tant que ça, là, mais c'est la question de la circulation. Elle habite proche de la rue Sherbrooke, puis elle disait, moi à 9 ans, je marchais pour aller à l'école. Moi aussi, by the way, mais j'étais dans un quartier de banlieue. Là, si sa fille va à l'école du quartier, il faut qu'elle traverse la rue Sherbrooke. Mm-hmm. Honnêtement, ça ne te donne pas le goût. Vraiment pas.
Ben, brigadier, accompagner l'enfant à l'école, il y a plein de solutions. Mais moi, tu sais, dans le temps de mes parents, ah non, c'est pas vrai, ils étaient pas ici quand il y avait de la neige. En tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, tout le monde, on peut parler de ça, là. Il y avait 4 pieds de neige, je marchais 8 kilomètres. Les temps changent, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé des seringues en dessous de mes marches, chez nous. J'ai pas aimé ça, puis je trippe pas. Mais ça fait partie de la réalité de la ville. Puis quand il y a des prostituées au coin de la rue sur Sainte-Catherine, moi j'habite plus proche de la rue Ontario, ben il faut que j'explique à ma fille pourquoi la madame montre ses seins. Puis elle trouve qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien à Montréal parce que c'est ça mon explication.
Oui, mais j'ai posé la question tantôt à Brigitte. Là, c'est-tu bon pour un enfant d'être exposé à ce genre de réalité très dure? Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse claire, mais sincèrement...
Quand t'as pas connu d'autre chose.
T'as raison. Peut-être que ça fait des enfants qui ont, comme tu dis, Meeker, vu plein d'affaires. Parfait. Merci à vous deux.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.